Bonjour à toutes et à tous, Didier Delatte sur IDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Pour ce dernier rendez-vous avant les vacances, vacances au cours desquelles vous allez peut-être avoir envie d'un peu d'exotisme, j'ai choisi de vous raconter de nouveau une histoire que je vous avais fait découvrir lors de notre toute première émission, celle du 2 septembre 2021, il y a presque maintenant 2 ans. L'histoire de Zarafa, la première girafe à être entrée vivante en France. Une girafe, aujourd'hui et depuis longtemps, on peut en voir dans n'importe quel zoo, parc animalier. Mais il y a pratiquement 2 siècles, l'histoire commence en 1824, Zarafa allait bouleverser notre pays et ses habitants. Je vous raconte donc de nouveau son merveilleux voyage et sa vie vraiment extraordinaire, avec quelques extraits de reportages audiovisuels et des extraits aussi de la bande-annonce du film Zarafa, sorti sur les écrans en 2012. Zarafa et son jeune ami Maki qui va partager son aventure. Cette histoire, je te la dédie à toi Camille, qui aime tant qu'on te raconte justement de belles histoires.
C'est ainsi que commence la grande aventure de Maki et Zarafa.
L'extraordinaire histoire de Zarafa fait d'abord penser à un conte des mille et une nuits. Tout commence en 1824, lorsque des soldats égyptiens capturent au Soudan, en Afrique, 2 girafons. Âgés de 2 et 4 mois, les 2 girafons sont acheminés par Felouk sur le Nil, nourris de lait de vache. Après 3000 km à travers le Soudan et toute l'Égypte, ils arrivent au port d'Alexandrie. Le vice-roi d'Égypte, Mehmet Ali, décide d'en offrir une au roi de France, Charles X. Le consul anglais réclame l'autre pour son pays. Le pacha d'Égypte accepte. Il espère ainsi obtenir l'aide de la France et de l'Angleterre contre l'Empire ottoman qui domine l'Égypte, son pays. Le cadeau des girafes l'aidera très certainement.
L'idée était un peu folle, mais pour libérer son pays, le pacha d'Égypte voulait demander de l'aide au roi de France.
En Égypte, un tirage au sort a lieu pour savoir laquelle des girafes sera donnée à l'Angleterre et laquelle à la France. La girafe anglaise est expédiée rapidement par bateau jusque dans son futur pays. Mais elle supporte mal le voyage par l'océan et elle meurt, hélas, à son arrivée à Londres. À la suite de cet échec, il est décidé de mieux préparer l'acheminement de la girafe survivante vers la France. Après 2 ans de préparatifs, le voyage de la girafe commence depuis le Caire jusqu'à Marseille sur un navire qui lui est spécialement réservé.
On ne peut pas faire un plus beau cadeau.
Un cadeau ?
Nous emmenons Zarafa en France.
L'expédition est surveillée par un général français. On découpe le pont du bateau afin que la girafe puisse passer la tête à l'extérieur. Imaginez la surprise de tous ceux qui croisent cet équipage. Zarafa est embarqué avec 2 antilopes pour lui tenir compagnie et 3 vaches égyptiennes. Elle boit en effet 20 à 25 litres de lait par jour. Elle est soignée par Hassan, un ancien esclave soudanais, et par Atir, un Nubien, qui sera son fidèle gardien jusqu'à sa mort. Le bateau accoste à Marseille le 23 octobre 1826, après 25 jours de mer. Au cou de la girafe est attaché un pendentif contenant des versets du Coran, histoire qu'elle n'oublie pas ses origines orientales. Elle demeure 2 semaines au lazaret où sont mis en quarantaine les passagers, équipages et marchandises en provenance de ports où sévit la peste. Elle est donc confinée, notre girafe. Voyez, nous ne sommes pas les premiers. Pour s'habituer au climat européen, beaucoup moins chaud que les chaleurs africaines, Zarafa passe tout l'hiver à Marseille. Elle séjourne dans les jardins de la préfecture et on met à sa disposition une écurie chauffée. La femme du préfet organise des soirées à la girafe pour ses invités auxquels Zarafa donne des coups de langue affectueux. Les promenades dans la ville se multiplient devant les habitants stupéfaits. La girafe traverse Marseille sans s'inquiéter de la foule qui la cerne de près. Il faut dire qu'on n'avait pas vu de girafe sur le continent européen depuis celle offerte par le sultan Mamelouk d'Égypte à Laurent de Médicis à Florence, 3 siècles et demi plus tôt. À son époque, la girafe avait causé une immense émotion lors de son arrivée à Florence. Les Médicis possédaient une grande ménagerie et avaient déjà présenté un mannequin géant d'une girafe, mais c'était le premier exemplaire vivant à être vu dans la ville. Son passage dans les rues fut immortalisé par les plus grands peintres qui la représentèrent au milieu de scènes bibliques comme l'adoration des mages. Un témoin note « Elle semblait aimer la foule, toujours pacifique et sans crainte. Elle observait avec plaisir les personnes qui venaient pour la contempler. » Et des foules bruyantes pour la contempler, il y en avait sans cesse. Laurent de Médicis avait fait construire pour sa chère girafe une belle écurie chauffée pour la protéger des hivers humides. Malheureusement, il la vit se rompre le cou dans les poutres de son écurie et mourir peu de temps après son arrivée. Marseille, quant à elle, garde le souvenir de Zarafa, sous la forme d'une statue. Une première version, datant de 2009, était constituée de 3000 livres. Elle s'élevait à 6 mètres de hauteur. En 2010, elle est entièrement détruite par un incendie provoqué par les « supporters » entre guillemets marseillais, après une victoire de l'OM. Dès l'été suivant, au même endroit, est installée une version métallique de Zarafa, accompagnée cette fois d'un girafon, surnommé Marcel, qui sera utilisé comme borne de dépôt et d'échange de livres.
Ces images maintenant, regardez, de Zarafa, la célèbre girafe de la Canebière, qui commence enfin à renaître de ses cendres. Elle a en plus donné naissance à Marcel, son girafon. L'inauguration est prévue le 15 septembre prochain. Le principe de la borne d'échange de livres est évidemment maintenu. Et le grand changement cette fois, c'est la matière des deux girafes. Écoutez l'un des artistes qui participe au projet.
La première sculpture en livre était éphémère, c'était pour 3 jours, et bon, elle est restée un an, c'était super, mais celle-là elle est prévue pour rester plus longtemps, donc on a choisi le métal. On va garder quelques livres qui vont représenter les tâches sur la girafe et pour rappeler l'ancienne, mais essentiellement en métal.
Mais pendant que Marseille profite de la girafe, à Paris, le roi et les membres du Muséum d'Histoire Naturelle s'impatientent. Mais quand et comment la girafe du roi rejoindra-t-elle Paris ? Étienne Geoffroy de Saint-Hilaire, le professeur de zoologie du Muséum, le responsable de la ménagerie du Jardin des Plantes et ancien de l'expédition d'Égypte de Bonaparte, est envoyé à Marseille. Il arrive sur place le 4 mai 1827. Il examine Zarafa, elle mesure 3,70 m, 15 cm de plus qu'à son arrivée. Compte tenu de son excellent état de santé, il est décidé qu'elle parcourra les 800 km entre Marseille et Paris à pied. Cela permettra aux Français de découvrir cet animal particulièrement populaire et de rendre peut-être plus populaire le roi lui-même qui n'est pas très aimé. Le 20 mai 1827, la caravane prend finalement la route au rythme lent, très lent et régulier de Zarafa, qui suscite l'étonnement et l'admiration. Le monde semble marcher plus calmement à son image. Notre girafe est escortée par Geoffroy de Saint-Hilaire, le savant, Atir et Hassan, ses fidèles serviteurs, Youssef, un ancien mamelouk de la garde impériale de Napoléon Ier, qui sert de traducteur. Elle est accompagnée également de 6 gendarmes, de 2 vaches, 2 antilopes, d'un mouflon et d'une charrette remplie de provisions. La caravane traverse des foules toujours de plus en plus nombreuses qui admirent cet animal inconnu qui marche avec une grande majesté, avec une noble et digne lenteur. Au début, la girafe a froid et n'avance que de 17 km par jour. Saint-Hilaire lui fait donc confectionner un bonnet bien chaud et un costume imperméable brodé de velours aux armes du roi Charles X et du vice-roi d'Égypte. Elle parcourt alors 29 km par jour, soit environ 3,5 km par heure. Le 1er juin, un clou s'enfonce dans le sabot de Zarafa. On lui confectionne alors des bottes sur mesure. À Lyon, le 5 juin, 30 000 personnes l'acclament. Girouettes, enseignes des auberges, relais de poste ou commerces la mettent à l'honneur. Des places, des rues sont rebaptisées en son honneur. Des excursions s'organisent pour venir à la rencontre de la lente ambassadrice d'Égypte. Après 800 km et 41 jours, dont 7 jours de repos, le 30 juin à 17h, la girafe, en pleine forme, arrive à Paris et est conduite au Jardin des Plantes. Installée à la ménagerie du Jardin des Rois, sa loge est capitonnée avec des paillassons, chauffée avec un poêle, et on lui a laissé comme compagnie les deux vaches.
Donc les vaches avaient trois fonctions, donc la chaleur, la nourriture et la compagnie.
Mais les vaches ne sont pas la seule compagnie de Zarafa. En effet, Atir, son cornac soudanais, ne la quitte pas d'un sabot.
On lui avait aménagé une mezzaline, un plancher à une hauteur de 4 mètres, la hauteur de Zarafa. Et donc quand il était dans son lit, Zarafa debout, ils pouvaient communiquer ensemble.
Voir une girafe, c'est une chose, mais voir un cornac noir
Exactement. Du
Soudan, ouais. Ça devait être encore plus surprenant.
Et d'ailleurs, on m'a raconté une anecdote assez croustillante. Il paraît que ce cornac, la nuit, faisait le mur pour s'encanailler avec quelques Parisiennes, justement, un peu
friandes
d'exotisme.
Le 9 juillet, Zarafa est escorté au château de Saint-Cloud pour y être présenté au roi. Charles X a hâte de voir ce fabuleux cadeau exotique. Il est prêt à aller directement à sa rencontre, mais sa nièce Marie-Thérèse Charlotte de Bourbon, la fille du roi Louis XVI, lui rappelle l'étiquette, le protocole royal. C'est à la girafe d'être conduite au roi et non au souverain de se précipiter comme un vulgaire homme du peuple au-devant du cadeau qu'on lui fait. Le roi s'irrite. Je serai donc le dernier Français à voir cette girafe ? Enfin, Zarafa est officiellement présentée au roi et à la cour. Elle est revêtue d'un manteau brodé d'armoirie et porte une couronne de fleurs. Mais elle va délicatement manger quelques pétales de rose dans les mains même du roi qui est ravi.
Un cadeau diplomatique qui arrive à point nommé pour le roi Charles X, très impopulaire.
C'est un roi qui apparaît comme réactionnaire, il s'est fait sacrer. Il a multiplié les mesures qui ont contrarié la majorité de la population.
Et il voit dans cette girafe l'opportunité d'inverser la tendance.
La presse célèbre l'événement, mais le pauvre Charles X est décidément très impopulaire. Les caricaturistes utilisent aussitôt la girafe pour se moquer de lui. Rien n'est changé en France si ce n'est qu'il s'y trouve une grande bête de plus.
Je revois la ville en fête et en délire. Suffoquant sous le soleil et sous la joie, et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces
Zarafa devient la star du Jardin des Plantes, le jardin du roi, ouvert au public pour l'occasion. La foule se presse, se bouscule, s'agglutine. Plus d'un visiteur est emporté par la foule.
Emporté par la foule qui nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps.
Des billets spéciaux sont imprimés, 600 000 visiteurs passionnés viennent l'admirer durant l'été 1827. Une véritable girafomania s'empare de Paris et de toute la France.
Les mois qui ont suivi l'arrivée de Zarafa, 600 000 visiteurs seraient venus la voir.
600 000 visiteurs en à peine 6 mois. Zarafa est un vrai phénomène. À peine a-t-elle posé le pied en France qu'une girafomania s'empare du pays.
L'arrivée de Zarafa en France déclenche en fait un phénomène complètement nouveau qu'on devrait appeler aujourd'hui du merchandising animalier. Et c'est le premier exemple qu'on en ait, du moins en France, bien avant Walt Disney. C'est-à-dire que cet animal qui va devenir si populaire va se retrouver en effigie partout, mais vraiment partout.
Elle inspire des personnages du carnaval. On fabrique papier peint, pendule, plat, assiette, médaille, dessus de cheminée, bonbonnière, tabatière, girouette, éventail, encrier, fer à repasser, savon, gâteau, pain d'épices, moule à pâtisserie avec sa femme. Les femmes se coiffent à la girafe, les hommes nouent leur cravate à la girafe. Son pelage donne le ton, des couleurs à la mode, le jaune et le brun. Dessins, caricatures, poèmes, chansons à sa gloire s'accumulent. Au théâtre, on donne une pièce intitulée « La girafe ou une journée au jardin du roi ».
Ces objets à la girafe existent toujours. Et c'est ici, au musée départemental du domaine de Sceaux, que je vous propose de les découvrir. Et ça, c'est quoi ?
Alors, c'est un encrier.
Un encrier ?
Un encrier qui servait aussi de bougeoir. Certains ont même pu parler de bougirafe.
Bougirafe.
Voilà.
On a des objets qui sont donc destinés à des, voilà, un peu des personnes qui ont les moyens, on va dire, financiers. Mmh. Donc, des objets de luxe, vraiment. Mmh. Et à côté de ça, on a des objets un peu plus populaires. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un mouchoir ?
Alors malheureusement, c'est tout ce qui nous reste des morceaux de tissu qui étaient beaucoup plus larges, évidemment, réalisés à l'époque.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Une chemise à la girafe.
Ouais.
L'expression « peigner la girafe », qui signifie ne rien faire ou perdre son temps, daterait, paraît-il, de cet été 1827. Au Jardin des Plantes, Zarafa, son gardien personnel, et à ses supérieurs qui lui reprochent de ne pas faire grand-chose, l'employé aurait répondu, pour se justifier, qu'il était fort occupé à, justement, peigner la girafe.
C'est joli, non ?
Mais finalement, cette girafomania va-t-elle servir ou desservir le roi ?
La girafe est utilisée effectivement pour se moquer de Charles X. On a des caricatures qui représentent Charles X sous les traits d'une girafe. Donc Zarafa, on l'a affublé d'un tricorne et puis d'un vêtement très chamarré comme les aimait le roi. Et les légendes, c'est la plus grande bête de Paris ou vous voyez des...
Cet enthousiasme dure 3 ans. Il se termine quand Charles X, roi de France depuis 1824, est chassé du pouvoir par une révolution populaire qui éclate à Paris en juillet 1830. En raison de tous ces événements, la girafe est délaissée par les foules, on ne vient plus la voir, elle n'intéresse plus. Elle est alors confiée à Tyr, son compagnon et bienfaiteur depuis son arrivée au Caire. Elle est présentée en 1839 à un mâle girafe, venu aussi d'Égypte, mais il n'y eut pas de naissance à la suite de cette rencontre. Solitaire, Zarafa passera 18 ans à la ménagerie jusqu'à sa mort le 12 janvier 1845, dans l'indifférence générale. Sic transit gloria mundi, ainsi passe la gloire du monde pour les girafes, comme pour les champions du monde de football. Après sa mort, personne ne sait vraiment ce qu'elle devient. Une légende raconte que son corps naturalisé aurait été utilisé pendant la Première Guerre mondiale près de Verdun. On l'aurait hissé hors d'une tranchée pour effrayer l'ennemi allemand et le faire fuir. Bon, on a quand même quelques gros doutes sur cette légende. Selon une autre histoire, alors qu'elle se trouvait dans un musée de Caen, en Normandie, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle aurait été victime d'un bombardement. Bref, aujourd'hui, elle est exposée au Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle.
C'est la star du Muséum d'Histoire Naturelle. C'est aussi elle qui a inspiré le créateur du plus célèbre des jouets pour enfants, la girafe Sophie. Elle s'appelle Zarafa. Elle meurt en 1845 et fut naturalisée avec soin et rigueur, d'où son état de conservation. Elle rejoint les collections du Muséum d'Histoire Naturelle de La Rochelle en 1931.
Elle est arrivée en gare de La Rochelle dans un wagon qui avait été aménagé pour ramener toutes ses collections. Et en 1931, eh bien, elle a été placée sur ce socle, ici dans ce, au pied de cet escalier. Et puis, donc on s'en occupe beaucoup, hein, elle est restaurée de temps en temps et... ce qui permet à tous nos visiteurs de pouvoir observer cette première girafe ayant franchi le sol français.
Et les curieux sont de plus en plus nombreux avec un record d'affluence en 2019, chiffré à plus de 71 000 visiteurs.
Mais s'agit-il véritablement de notre Zarafa ? Mystère. car en comparant des dessins de 1827 qui la représentent avec le spécimen présenté aujourd'hui à La Rochelle, quelque chose ne colle pas, reconnaissent les conservateurs du musée eux-mêmes. Zarafa garde donc un peu de son mystère, comme les momies et les pyramides de son lointain pays. Mystère également quant à son nom. La girafe offerte à Charles X est aujourd'hui couramment appelée Zarafa, mais ce nom n'était pas employé de son vivant. Selon Geoffroy Saint-Hilaire, durant son voyage et son séjour à Paris, elle ne fut appelée que le bel animal du roi. Le nom de Zarafa serait apparu 140 ans après sa mort dans un livre publié en 1985 et intitulé « Une girafe pour le roi ». En 1998, un autre livre présente son nom comme la transcription d'un mot arabe signifiant à la fois « girafe » et « charmante ». Notre charmante Zarafa a retrouvé un peu de sa célébrité passée en étant la vedette d'un film d'animation sorti en 2012, intitulé tout simplement « Zarafa » et qui s'inspire très librement de son histoire. Ainsi se termine l'histoire de Zarafa, la première girafe entrée vivante en France il y a près de 200 ans. En Afrique, la terre natale de Zarafa, le nombre de girafes a diminué de 40% entre 1985 et 2015. Leur habitat est de plus en plus réduit car les humains s'installent toujours davantage sur leur territoire. On continue de tuer les girafes pour leurs os, leur cervelle considérée comme des remèdes contre le sida ou pour leur queue offerte lors d'une demande en mariage. Après les éléphants, les girafes sont les nouvelles cibles des braconniers. Le braconnage et le commerce illégal des espèces sauvages génèrent un bénéfice net de plus de 10 milliards de dollars par an. Entre 2006 et 2015, les États-Unis ont importé 21 400 sculptures sur os de girafes, 3000 peaux de girafes et 3700 trophées de chasse. Rendez-vous compte. Jacques Prévert, en 1947, déjà l'écrivait dans l'Opéra des girafes, un poème extrait des contes pour enfants Passage. Il y avait une fois des girafes. Il y avait beaucoup de girafes. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est Monsieur l'Homme qui les tue.
Premier tableau, cœur des girafes.
Il y avait une fois des girafes. Il y avait beaucoup de girafes. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est Monsieur l'Homme.
Pour finir, je voudrais vous parler d'un peuple qui n'a jamais vu de girafe en liberté et dont pourtant les femmes ont un rapport très serré, dirons-nous, avec les girafes. Il s'agit des femmes girafes de l'ethnie Padong qui vit à la frontière de la Birmanie en Asie. Ces femmes perpétuent une ancienne tradition qui consiste à allonger leur cou en portant de multiples anneaux à partir d'un âge parfois très précoce. Un soir de pleine lune, en présence de sa famille et des notables de la tribu, des fillettes parfois d'à peine 5 ans reçoivent leur première spirale dorée sous l'autorité du chaman du village après avoir enduit leur cou d'une pommade à base de graisse de chien, de lait de coco et de gelée royale. Tous les 2 ou 3 ans, une spirale métallique plus longue, plus large, mais aussi plus lourde que la précédente s'ajoute jusqu'à atteindre une dimension maximale de 40 cm et un poids de 10 kg. Le long cou est un signe de beauté pour les Padong. D'autres y voient une volonté de protéger les femmes contre les morsures de tigres autrefois très présents dans cette région. Enfin, une théorie plus fantaisiste explique que les femmes voudraient ressembler aux dragons de la mythologie Padong. Contrairement à la croyance populaire, les femmes girafes peuvent parfaitement retirer leur collier sans craindre de mourir. Aujourd'hui, c'est surtout pour elle un moyen de gagner un peu d'argent, car ce peuple est en partie persécuté. Rendez-vous compte. Pour finir de finir, je voudrais vous raconter l'histoire bien réelle, mais bien triste, d'une jeune girafe de 2 ans surnommée Marius. S'il y a des âmes sensibles à l'écoute, éloignez-vous 2 minutes avant de me retrouver. Marius est né le 6 février 2012, dans le zoo de Copenhague, au Danemark, dans le cadre du programme européen d'élevage conservatoire des girafes. À 2 ans, il est en parfaite santé, mais il a de nombreux frères et sœurs possédant les mêmes gènes que lui au sein de ce programme conservatoire. Des tensions liées à son âge et à la dynamique sociale de l'espèce commencent à apparaître au sein du groupe de girafes. Après avoir étudié plusieurs possibilités, au début février 2014, le zoo annonce qu'il a l'intention d'abattre Marius le 9 du mois. Le zoo de Copenhague reçoit alors plusieurs offres de placement pour Marius, mais aucune n'est acceptée. Selon la direction du zoo, elles ne correspondent pas aux exigences du programme de conservation. Malgré des protestations et une manifestation devant le zoo, Marius est finalement abattu par le vétérinaire le dimanche 9 février 2014, vers 9h15, peu avant l'ouverture du zoo. Marius avait été attiré dans un espace situé derrière la maison des girafes avec du pain de seigle dont il raffolait. Il est tué à l'aide d'un pistolet d'abattage. Cette procédure a permis de ne pas le stresser et qu'il ne se rende compte de rien. Il meurt instantanément. Après avoir été abattu, Marius est autopsié et disséqué en public dans le cadre d'une animation pédagogique devant une 50aine de personnes, dont des enfants. La scène est retransmise en direct sur Internet. Le porte-parole du zoo déclare à cette occasion: « Je suis vraiment fier parce que je pense que nous avons donné aux enfants une énorme compréhension de l'anatomie d'une girafe qu'ils n'auraient pas eue en regardant des photos. » Le corps de Marius est ensuite donné comme nourriture aux lions, tigres, ours blancs et même babouins du zoo. Rendez-vous compte. Quelle morale tirer de cet événement ? On pourrait parodier le philosophe Pascal en disant « La science a ses raisons que le cœur ignore ». Ou on pourrait dire comme Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Au moins, notre Zarafa a-t-elle échappé à ce sort funeste.
Premier tableau, cœur des girafes.
Il y avait une fois des girafes. Il y avait beaucoup de girafes. Bientôt, il n'y en aura plus. C'est Monsieur l'homme qui les tue.
On ne peut pas faire un plus beau cadeau.
Un cadeau ?
Nous emmenons Zarafa en France.
Je te déteste.
Tu l'aimes cette girafe, hein ?
J'ai promis à sa mère de veiller sur elle.
Voilà, notre dernier rendez-vous compte avant les rediffusions des vacances est terminé. J'espère, Camille, et vous aussi, chers auditeurs, que vous avez aimé voyager avec moi. Avec Zarafa, la première girafe entrée vivante en France et qui a donné un peu de bonheur et de folie à nos compatriotes de l'époque. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM. Je vous donne rendez-vous les prochaines semaines pour vous proposer de réécouter quelques-unes de ces émissions que j'ai consacrées à l'une ou l'autre lettre de l'alphabet. Par exemple, D comme Doc Martens, la célèbre marque de chaussures des Bad Boys anglais des années 60-70. Ou alors M comme Maupassant, Maupassant et ses nouvelles contre la guerre de 1870. Ou alors O comme Orient Express, le train mythique d'Agatha Christie et de tous les aventuriers. Ou O encore comme Ma chère Oléane. Ou encore les 3 lettres grecques, Alpha, Omega et Psi. Alors, rendez-vous sur la page de l'émission pour les retrouver en podcast, ou alors à la semaine prochaine, déjà, sur IDFM, même heure, même adresse. En attendant, voici Sur le terrain, l'émission qui laisse la parole aux Valdoisiens et qui présente tous les événements de notre département sur IDFM Radio, évidemment.